Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est mort il y a 300 ans. Il, c'est Jean-Baptiste de La Salle, fondateur des Frères des Écoles Chrétiennes, génie de la pédagogie, père de l'école moderne telle que nous la connaissons. Une grande figure qui a fait bien des petits, puisque dit-on, au moins 10 autres congrégations enseignantes seraient nées dans son sillage. Aujourd'hui, les Frères des Écoles Chrétiennes sont présents dans près de 80 pays dans le monde, avec plusieurs milliers d'établissements et près de 4500 frères. Une vie et une œuvre, donc, que je vous propose de découvrir ensemble ce matin. Qui était Jean-Baptiste de La Salle? C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Et pour nous en parler, ça tombe bien, Étienne Le Chapelain, frère des écoles chrétiennes, autrement appelé les Lassaliens. Bonjour frère Étienne.
Bonjour monsieur Pella, ouais. Bonjour aux auditeurs.
C'est également comme ça qu'on vous appelle, donc frère Étienne.
Absolument. Et j'y tiens.
Voilà, on est bien content de vous avoir en plateau. En tout cas, c'est vrai qu'il fut un temps où les congrégations enseignantes, dites apostoliques, qui avaient de multiples services dans la société française, étaient légion. Souvent, quand on en reçoit sur ce plateau, on a l'impression que c'est des congrégations en fin de vie. Alors les Lassaliens, c'est impressionnant quand on se plonge un petit peu dans votre aventure et dans votre fondation. On voit que c'est encore un réseau extrêmement vaste. On va commencer donc cette émission par faire une biographie de Jean-Baptiste de La Salle, le père donc de votre congrégation, et puis après on essaiera de se balader au regard de votre expérience dans ce qui fait le charisme des Lassaliens. Je me suis noté une phrase que j'ai trouvée très belle et aussi très inspirante peut-être pour tous les éducateurs, tous les parents de Jean-Baptiste de La Salle, avant qu'on regarde sa vie. Faites en sorte d'avoir de la bonté et de l'affection pour les enfants que vous instruisez. Ça paraît bête à dire, mais c'est ça aussi le propre de l'éducation chrétienne, c'est faire éduquer avec amour.
Je crois que c'est l'essentiel du message de Jean-Baptiste de La Salle. Il le dit bien, aimez les enfants, ayez la fermeté d'un père, mais la tendresse d'une mère. Ça veut dire beaucoup de choses.
Ça veut dire que vous avez passé votre vie à aimer des enfants en même temps qu'à enseigner.
Voilà. Alors l'enseignement demande un peu de fermeté également. Mais si on n'aime pas les enfants, je pense que la relation pédagogique n'est pas possible.
Alors, plongeons-nous dans la vie de Jean-Baptiste de La Salle. Jean-Baptiste de La Salle est donc né en 1651. Décédé donc en 1719, d'où cet anniversaire, il avait 67 ans. C'est toujours bien de regarder un petit peu d'où viennent les saints. En tout cas, je ferai pas exception avec cette émission. Il naît dans une famille noble de juristes. Il est l'aîné de 11 enfants. Voilà, c'est un peu une autre époque. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de sa famille, du milieu dans lequel il a grandi?
Alors, 11 enfants, c'était l'usage à l'époque. Effectivement, on assurait la descendance, mais 7 vivants. Je crois qu'il faut situer les choses, c'est important dans son histoire ensuite. Et puis une famille bourgeoise très bien insérée, très bien placée dans la ville de Reims. Il ne faut pas oublier qu'on est en plein au milieu du règne de Louis XIV et que Reims, c'est la ville du sacre. Donc c'est comme une ville qui a une importance. La famille de La Salle, le papa est président du tribunal du roi. Membre du présidial qui gouverne la ville. Et c'est un réseau de familles à la fois influentes, de La Salle, Maillefert, et aussi ce qu'on appelle les dévots à l'époque, donc des gens qui sont vraiment des familles chrétiennes et qui ont une conviction forte et qui mêlent à la fois, bien sûr, le religieux et le social à cette époque-là.
Alors, son père le destine à une carrière juridique, mais très tôt, né Jean-Baptiste sent une vocation religieuse. Alors c'est vrai que là aussi c'est un autre monde. Hein. Tonsuré à 11 ans, il se destine à la prêtrise, formé à la Sorbonne et au séminaire Saint-Sulpice à Paris. Bref, il rentre en fait dans la vie religieuse très tôt.
Alors je pense qu'il a eu une vocation de prêtre très tôt, dès l'enfance, dès la grande enfance, sous l'influence je pense de sa grand-mère Perrette. Il faut pas oublier que c'est l'aîné de la famille. Et donc, normalement, l'aîné de la famille prend la suite du père avec les fonctions qui vont avec les revenus. Et là, la vocation profonde de Jean-Baptiste pour devenir prêtre est, je pense, soutenue par sa famille. Hein. Donc, c'est un peu, c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même original. Donc, il va effectivement avoir le canonicat, qui ne veut pas dire qu'on va devenir prêtre. Hein. On reçoit la tonsure, et c'est lié à une obligation qui est celle d'aller dire la prière des chanoines à la cathédrale, mais il y a aussi des revenus qui sont en conséquence une prébende importante.
Donc les chanoines, c'est donc une forme de vie religieuse, on est attaché à une cathédrale, et c'est là qu'il a commencé en fait une vie religieuse ou une instruction religieuse, c'est ça ?
Alors, pas tout à fait ça, c'est-à-dire que c'est une fonction, hein, et donc des prêtres sont chargés d'aller faire les prières dans la cathédrale de l'évêque, et donc ce sont les chanoines, hein, et voilà, c'est un de ses oncles qui va lui laisser, si vous voulez, son poste. Et comme je vous l'ai dit, avec les revenus qui y sont attachés et qui Alors, ne sont pas négligeables.
Il est ordonné prêtre donc le 9 avril 1678, docteur en théologie en 1680, donc c'était voilà, quelqu'un qui avait aussi des grandes capacités intellectuelles. Et puis il y a comme une rupture après, c'est-à-dire qu'il avait quelque part une carrière ecclésiastique, hein, comme on dit, toute tracée, et puis il fait semble-t-il une rencontre et prend une autre décision, racontez-nous.
Oui, parce que ça semble tout tracé. Je veux être prêtre, je reçois le canonicat, je pars à Saint-Sulpice au séminaire, qui était, disons, quelque chose d'innovant à l'époque. Mais il y a un événement important, c'est la mort de ses parents. Puisque pendant son séjour au séminaire à Saint-Sulpice à Paris, son père et sa mère décèdent à un an d'intervalle. Donc il se retrouve chargé de famille, chargé de la tutelle des sept de la fratrie. Hein, voilà. Et ça, c'est... il l'assurera, je crois, avec beaucoup de conscience, même s'il doit interrompre sa formation, sa thèse à Saint-Sulpice pendant plus d'une année.
Et alors après, donc, il y a une rencontre, racontez-nous la rencontre avec Adrien, un certain Adrien Niel. Qui était cet Adrien Niel et quelle influence a-t-il eu dans sa vie ?
Alors Adrien Niel était un personnage un petit peu particulier, puisque c'est un personnage de l'an, mais qui était à Rouen. Et qui est un peu un fondateur des écoles pour les garçons. Hein. C'est quelqu'un qui s'était mis comme mission d'ouvrir des écoles de garçons. Il existait beaucoup d'écoles pour les filles, mais pas pour les garçons. Et donc, il débarque un jour à Reims, et c'est une rencontre un petit peu fortuite qui se passe, puisque le conseiller spirituel de Jean-Baptiste de La Salle, le chanoine Roland, s'était occupé de fonder un institut de sœurs, les sœurs de l'enfant Jésus, pour les filles. Et puis comme il meurt à 34 ans, son conseiller spirituel lui demande de prendre la tutelle de cet institut. Bon, en tant que prêtre riche, aisé de Reims, ça fait partie un peu des bonnes œuvres de la famille, pas de problème. Et puis un jour, il rencontre, à l'entrée d'ailleurs de cette maison de l'enfant Jésus, ce monsieur Niel, qui veut venir fonder des écoles pour garçons, voilà. Bon, et puis il l'héberge. Voilà, il le dépanne. C'est comme ça que ça commence.
C'est comme ça que ça commence, mais surtout, donc, y a une rupture à un moment dans la vie donc, de Jean-Baptiste. Il choisit, en fait, quelque part, de vivre auprès de ses frères, enfin, c'est comme ses ancêtres, quelque part, des frères des écoles chrétiennes, qui avaient une vie très pauvre, très simple, et qui se mettaient au service de l'instruction des plus pauvres et des plus simples.
Oui, alors, on disait que c'était tout tracé. C'est, oui, apparemment. Pas du tout, puisque... accompagnant M. Niel, il va donc accompagner ses fondations, mais il s'aperçoit bien vite que M. Niel, il fait n'importe quoi. Et que là, il fait n'importe quoi, il fonde, il prend des gens, voilà. Mais que les écoles, c'est brouillon, les maîtres ne sont pas formés pour ça. Et donc, il se pose la question principale, c'est comment former les maîtres d'abord, c'est essentiel. Donc, pour les mettre ensemble, pouvoir les accompagner, il les accueille chez lui. Alors c'est peut-être là le virage, si vous voulez, parce que c'est à la fois aller à l'inverse des conventions sociales de l'époque, puisque lui qui est d'une famille aisée, noble et tout, il va faire entrer chez lui des gens, comme il disait, des maîtres, dont qu'il ne mettait même pas à la hauteur de ses valets, c'est peu dire. Et il va les faire entrer dans la famille avec ses frères et sœurs dont il a la charge. Et ça, c'est le premier renversement, si vous voulez, pour Jean-Baptiste de La Salle et sa famille.
Alors Jean-Baptiste de La Salle, après, c'est difficile de résumer toute son aventure apostolique, dont il devient en tout cas le père des Lassalliens. Je vous laisserai peut-être détailler les grandes étapes. Il y a deux innovations majeures qui sont à noter. Ça a surpris ce matin Isabelle O'Neill lors du teasing de l'émission. La leçon donc n'est plus donnée individuellement, mais dans des classes, et on apprend à lire en français, mais non plus en latin. Expliquez-nous un peu le renversement qui se vit à cette époque en matière d'éducation, auquel a contribué Jean-Baptiste de La Salle.
Oui, alors l'école existait. Il y avait les écoles paroissiales pour les pauvres. Il y avait bien sûr les écoles des maîtres écrivains qui faisaient payer. Et entre les deux, pour les plus pauvres, il n'y avait rien. Hein, c'est certain. Pour les garçons, on s'entend. Ils étaient laissés à la rue. Les maîtres, comme je vous l'ai dit, étaient recrutés parce qu'ils n'avaient pas trouvé autre chose et qu'il fallait qu'ils trouvent un emploi. Jean-Baptiste de La Salle, non seulement va les accueillir chez lui, mais à un moment donné, il va les mettre à part. Il va louer une maison. Et là, il va commencer la formation. Alors la formation, c'est à la fois la formation spirituelle et la formation pédagogique, pour donner une structure à ces enseignants qui n'en sont pas au départ.
Et c'est donc la naissance des Lassalliens.
Je pense que c'est la naissance des Lassalliens. L'étape suivante, comme je vous disais, ce n'était pas évident le parcours, hein, ça paraissait tracé, mais ce n'était pas évident, c'est qu'il va aller vivre avec eux. À un moment donné, il va laisser la tutelle de sa famille à des oncles, et il va donc partager les biens familiaux entre ses frères et sœurs, et il va aller vivre avec ces gens du peuple qui sont devenus des maîtres.
J'ai cru comprendre que Jean-Baptiste de La Salle n'avait pas eu la vie facile, c'est-à-dire qu'on lui avait mis bien des bâtons dans les roues, il avait subi bien des calomnies, des critiques, j'ai vu même qu'il avait été à un moment destitué de sa charge du supérieur par l'archevêque de Paris, puis à la fin de sa vie, ses frères eux-mêmes ont écrit à Jean-Baptiste en lui demandant, voire en lui commandant au nom de l'obéissance à la société qu'il avait fondée, de revenir et d'en assurer la direction. Qu'est-ce qui était objet de tant de calomnie, pourquoi autant de critiques? J'imagine que tout homme qui prend des initiatives est souvent critiqué, mais quelle était un peu la fine pointe des critiques qui lui étaient adressées ou les raisons de ces critiques?
Je vous ai donné le premier exemple. Quand il accueille chez lui des gens du peuple, c'est déjà une transgression de ce qui peut se faire socialement. Par rapport à l'Église, de la même manière, un prêtre qui avait devant lui une carrière d'évêque probablement, qui avait une prébende, qui avait un rôle dans l'Église déjà, et qui lâche tout ça, il donne son canonicat, sa prébende à un prêtre pauvre. Voilà, ça se fait pas, ça aurait dû rester dans la famille. Et tout au long de sa vie, il va, par ses actes, par ses fondations, il va effectivement heurter, aller à l'encontre souvent de ce qui se passe, y compris des supérieurs, par exemple des responsables de paroisse, des curés de paroisse, des évêques. Alors, il utilisera beaucoup sa qualité.
C'est-à-dire parce qu'il était exigeant, parce qu'il avait une vision très particulière de ce qu'il devait développer, que les gens ne comprenaient pas,
Non, parce que c'est qu'il crée un nouveau et va à l'encontre souvent des perspectives des gens. Les curés de paroisse, c'était eux qui étaient en charge des écoles. Et donc les curés de paroisse, par exemple, quand il y a eu les premiers frères qui sont venus s'occuper des écoles de paroisse, qui existaient déjà, les prendre en charge, Jean-Baptiste de La Salle tenait à ce qu'ils soient en communauté, à plusieurs. Or, les curés auraient aimé que ces frères soient à leur disposition pour aller assister à la messe, pour préparer l'église, etc. Jean-Baptiste de La Salle dit non. Non, parce que sinon, ils ne pourront plus s'occuper des enfants. Ils deviendront les adjoints, si vous voulez, de la paroisse. Et là encore, c'est un peu une transgression, si vous voulez, opposition.
Avant qu'on fasse une première pause musicale, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots qui donnent un peu de chair au personnage? Est-ce qu'on sait, le tempérament qu'il avait au regard de ses écrits, aussi la flamme dont il était habité?
Je pense que c'est quelqu'un qui prenait beaucoup de réflexion, qui était très habité par Dieu dans sa vie. Hein. Il le dit lui-même, d'ailleurs, hein, que Dieu l'a mené d'événement en événement à faire ce qu'il a été mené à faire dans la mission de l'éducation des jeunes, alors qu'au départ, rien ne l'y prédestinait.
Jean-Baptiste de La Salle, on va faire une première pause, qui aujourd'hui donc est le patron de tous les éducateurs et qui a été donc canonisé par le pape Pie XII, non, c'est ça ? Voilà que j'ai un trou, vous allez m'aider. Il a été canonisé, pardon, le 24 mai 1900 par Léon XIII, voilà. Canonisé, donc déclaré saint par l'Église en 1900 et déclaré patron des éducateurs, voilà, c'est ça, par Pie XII en 1950. On fait une première pause et puis on va vous retrouver pour essayer de voir quels sont les charismes de ces frères enseignants présents un petit peu partout dans le monde. Vous aussi, vous avez voyagé, ou moins en France, et vous allez nous illustrer ça par vos expériences de vie.
Agbele mi sogbe a
mi sogbe
Jesu we na mi lezon umadu ya siwe mi ohun vode manono teto mi kon
Jesu we na mi lezon umadu ya siwe mi ohun vode manono teto mi kon
Jesu we na mi lezon umadu ya siwe mi ohun vode manono teto mi kon
Jesu we na mi lezon umadu ya siwe mi ohun vode manono teto mi kon
to mara siwe ani akaran wa to seru
baba wa zonde na peto dugbe me fi yelo haleluya we mi na ke
ti mata ko ani akaran wa to se won
baba wa zonde na peto dugbe me fi yelo haleluya we mi na ke
Jesu ana peto e
mo ye wa na kari bo
Jesu ana
Monye wana kani bo e wana kani gachwe maso doho a e Jesu wana kani gachwe maso doho Baba wazonde na kweto tupe mefi Yendo aleluya
we mina ke Baba wazonde na kweto tupe mefi
Yendo aleluya we mina ke
Baba wazonde na kweto tupe mefi
Yendo aleluya we mina ke
Baba wazonde na kweto tupe mefi
Yendo aleluya we mina ke
Baba wazonde na kweto tupe mefi
Jesu vivi dekwe Jesu vivi agu Jesu vivi dekwe Jesu vivi agu Jesu vivi dekwe Jesu vivi agu Jesu vivi
ekpero
Jesu me mi de meto Jesu me wendo aholu
Jesu jiwe ki go no Jesu jiwe ani mbogo
Jesu jiwe ani bojo o anu e ma ubi no wa
Jesu jiwe ki go no Jesu jiwe ani to gigo me
Jesu jiwe ani bojo o anu e ma ubi no wa
Yeblawe godo godo
Yeblawe Jesu na tun
Yeblawe godo godo eh
Yeblawe Jesu na tun Jesu jiwe ani bojo bo anu e ma ubi no wa
Yeblawe godo godo
Yeblawe Jesu na tun
Yeblawe godo godo eh
Yeblawe Jesu na tun Jesu jiwe ani bojo bo anu e ma ubi no wa
Dupe Jesu me odo Jesu me Dupe Jesu me odo Jesu me Ovi Dupe Jesu me odo Jesu me Dupe Jesu me Jesu wa me milete ketore ya pa mi tewe na jai
Chao ha po rakata hokiyo
Agu Jesu vivi dekpe Jesu vivi Agu Jesu vivi dekpe Jesu vivi Agu Jesu vivi dekpe Jesu vivi Agu Jesu vivi
Ekpero Ise nole Mele basi Jesu tole Nini tindo le vojo na do isewe
Jesu jiwe ani vojo
Owa nuwe ma ubi no wa
Jesu jiwe ani vojo
Owa nuwe ma ubi no wa
Jesu jiwe Kigo no Jesu jiwe ani mogo
Jesu jiwe ani vojo Owa nuwe ma ubi no wa
Emmanuel Pella.
Qui était Jean-Baptiste de La Salle ? C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin à l'occasion des 300 ans de la mort de ce fondateur de l'école moderne, décédé donc le 7 avril 1719. Et nous sommes avec Étienne Le Chapelain, qui est frère des écoles chrétiennes, autrement appelé Lassallien, pour en parler ce matin. Les frères des écoles chrétiennes, c'est donc aujourd'hui, vous êtes présents dans plus de 80 pays dans le monde, je le disais en introduction de cette émission. C'est près de plus de 4500 frères, près de 100 000 éducateurs qui qui vous accompagnent. On s'est dit donc dans cette deuxième partie qu'on allait se plonger dans ce qui fait le charisme de ces Lassalliens. Avant ça, j'aimerais qu'on vous propose un peu une balade. Dans un numéro récent du journal Famille Chrétienne, il y a tout un dossier intitulé Famille Chrétienne avait fait sa une, Saint Jean-Baptiste de La Salle, son incroyable postérité. Et le journaliste est allé au Burkina Faso rencontrer certains de vos frères dans des écoles où on les voit alors en habit de l'époque. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu cet habit des frères donc, qui est porté encore en certains lieux, grande robe noire, et puis qu'est-ce qu'ils ont devant là,
le rabat blanc.
Rabat blanc, voilà, c'est ça.
Alors, Jean-Baptiste de La Salle, quand il a voulu que ses maîtres deviennent des frères, c'est-à-dire fassent communauté, et petit à petit d'ailleurs vont faire des vœux, vont s'engager ensemble, il va aussi leur donner un habit. Et l'habit qu'il leur donne, c'est l'habit des paysans de Reims. C'est-à-dire un habit noir, simple, avec des petits crochets dans le haut. Ce n'est pas l'habit ecclésiastique. Un grand chapeau à large bord, parce que ça protégeait de la pluie, c'était un peu leur parapluie, si vous voulez, de l'époque. Et un grand manteau sans manches. Pour ça qu'au XIXe siècle, on appelait les frères les quatre bras, parce qu'effectivement, les manches flottaient. Donc cet habit...
Alors, il a rajouté les rabats blancs pour que ça fasse
alors,
un petit
non,
peu
le
plus...
Non, le rabat blanc, c'était une habitude de l'époque. Vous savez qu'on ne portait pas de chemise. Donc, oui. Pour ne pas abîmer les habits, on mettait une fausse chemise, hein, une collerette avec le rabat. Ça, on pouvait laver, apprêter.
Et même les paysans avaient ça ?
Ah ben oui, mais simple. C'était la grosse toile, alors que les gens des bonnes sociétés avaient ces rabats, si vous voulez, qui soient festonnés. Hein.
Alors, voilà. Les frères, aujourd'hui, dont vous êtes présents un peu dans le monde entier, même si vous avez enseigné qu'en France, vous êtes peut-être allé tout de même à l'étranger. Vous pouvez nous parler, par exemple, d'une mission à l'étranger qui aide à prendre conscience de l'étendue, on va dire, de la présence des Lassalliens dans le monde ?
Non, personnellement, je ne suis pas allé à l'étranger ou sinon à l'étranger proche, si en Égypte, de ce que je connais personnellement.
Oui, ou alors une mission dont vous avez entendu parler et qui pour vous est emblématique de cette présence aux quatre coins de la planète.
Alors, il y en a beaucoup parce que dans chaque pays, la pédagogie n'est pas la même. Les frères n'ont pas tout à fait la même façon de vivre, même s'ils portent le même costume, qu'ils font les mêmes vœux, hein, qu'ils vivent en communauté, c'est important. Et donc, je peux penser par exemple à Bamboo School, à la frontière dans les pays asiatiques, à la frontière de...
Ça vous échappe.
Birmanie.
Je ne peux pas vous aider, oui, pardon.
À la frontière de la Birmanie. De l'autre côté de la frontière, une petite école qui s'est créée pour justement recevoir les gens qui sont en opposition au gouvernement, les enfants qui ne sont pas scolarisés, qui sont dans une situation de guerre. Au Sud-Soudan, actuellement, avec d'ailleurs d'autres congrégations, l'ouverture, il y a déjà des lieux pour accueillir les enfants de la rue, qui sont bien nombreux là-bas, mais l'ouverture d'une école, on dirait en France, une école pour former l'élite, mais c'est un collège, il y a 40 jeunes, parce que dans le Sud-Soudan, il n'y aura plus personne, il n'y aura plus aucune élite pour pouvoir discerner et gouverner le pays ensuite, ce n'est pas possible. Donc, je pense à... plus près de nous, mais parce que c'est en France et à la fois ailleurs, c'est en Guyane, à la frontière du Suriname, où nous avons, il y a 8 ans, créé une école pour les jeunes qui arrivent soit de l'autre côté du Maroni, soit directement de la jungle, et qui parlent le taki-taki, ils ne parlent pas le français. Et ils n'ont pas de place dans les écoles publiques de Saint-Laurent du Maroni.
Ça veut dire que souvent les Lassalliens se tiennent un peu aux frontières, c'est-à-dire la lettre de mission, c'est comme à l'époque de Jean-Baptiste de La Salle, c'est vraiment de viser d'abord des enfants en situation de pauvreté.
Alors principalement, parce que Jean-Baptiste de La Salle n'a jamais fait des écoles, des ghettos pour les pauvres. Voilà. Il a même, dans les paroisses qui avaient des écoles et qui prenaient en charge les enfants, il fallait un certificat de pauvreté. Et Jean-Baptiste de La Salle, petit à petit, y accueillit aussi les parents qui envoyaient des enfants qui n'étaient pas spécifiquement pauvres. C'était des enfants d'artisans, par exemple. Hein. Voilà. Il n'a jamais créé un ghetto, même si dans certaines écoles, il a aussi eu, par exemple, des gens placés par ce qu'on appelle les écoles de redressement aujourd'hui, hein, les centres de redressement. Voilà. C'est donc quelque chose qui doit rester ouvert.
Alors, dans l'article de Famille Chrétienne, justement, il y a un de vos frères qui dit « Je suis fatigué des riches », laissant entendre avec humour que, comme ces écoles sont de qualité, on se presse aussi à la porte de ces écoles pour essayer de faire en sorte que ces enfants soient scolarisés. Alors, le premier point du charisme lassalien sur lequel vous vouliez insister, c'est l'éducation de toute la personne. Ça semble bête à dire, mais ça va mieux en le disant, parce que c'est pas toujours aujourd'hui, en fait, une vérité pédagogique ou un mantra de l'éducation actuelle. Précisez-nous, qu'est-ce que ça veut dire, éducation de toute la personne ?
Jean-Baptiste de La Salle avait bien sûr pour but l'évangélisation des jeunes. C'était le but de l'époque. Il fallait que ces enfants pauvres qui étaient dans la rue deviennent des bons chrétiens. Mais il s'est bien aperçu qu'il fallait aussi en faire des bons citoyens, entre guillemets, c'était sous le roi Louis XIV, donc, je ne sais pas quel mot utiliser, mais en faire des hommes, des gens qui pouvaient trouver un métier. Et les métiers, c'était dans les familles à l'époque, hein, ou l'artisanat. Donc il fallait les former, leur apprendre à pouvoir communiquer, leur apprendre les bonnes manières. Donc il va mettre tout ça dans sa pédagogie. Dans les premières écoles de frères, sa pédagogie, c'est on met tous les élèves ensemble, 50, 60, mais ils travaillent par groupe, ils travaillent par niveau, c'est très ordonné. Il va y avoir la classe en français et non plus en latin, comme ça se faisait habituellement, la langue du peuple. On va y introduire les mathématiques, la géographie, tout ce qui peut leur servir ensuite pour trouver un métier, pour s'insérer dans la société. Et bien entendu, c'est les enseignants, c'est les maîtres qu'on va former au niveau spirituel.
Alors vous,
donc petit à petit, en faire des frères.
Si vous deviez prendre un exemple dans votre longue expérience professionnelle de ce premier point d'attention donc, des Lassalliens, l'éducation de toute la personne, qu'est-ce que vous nous prendriez comme exemple ?
Dans ma carrière d'enseignant, après avoir travaillé pendant longtemps dans les lycées professionnels, bon, vous savez, il y a un moment donné, on se dit, est-ce que je peux aller peut-être vers des jeunes en plus grande difficulté, qui ont plus besoin. Et il s'est trouvé qu'effectivement, au même moment où je pensais cela, hein, vers 45-40 ans, mes supérieurs m'ont dit, tiens, en banlieue parisienne, il y a une petite école, un collège-école, de 50 élèves, 80 avec le primaire, qui a besoin d'un professeur de technologie.
Et préciser l'objet de cet établissement qui s'appelle donc Oscar Romero.
Alors, l'école Oscar Romero reçoit des jeunes qui ne sont plus scolarisés. Le critère, c'est au moins 2 ans de retard scolaire. Alors, certains sont plus scolarisés parce qu'ils ont été mis dehors de l'école. On n'en veut plus, on n'en peut plus. Ou alors, ils ne veulent plus aller à l'école. Hein, ou ils n'ont jamais été à l'école.
Alors, au cœur de cette expérience professionnelle, qu'est-ce qui illustrerait ce premier point, éducation de toute la personne ?
Alors, tenir compte de la personne, c'est sûr que ces jeunes-là ne sont pas faciles, ils sont ce qu'ils sont avec leur histoire, leur révolte aussi, et il ne s'agit pas de les remettre dans un contexte d'école classique, sinon, de nouveau, ils vont péter les plombs. Donc, tenir compte d'eux, être proche, les aimer. Hein. Dans cette école, par exemple, en dehors des cours, nous étions en permanence l'équipe pédagogique sur la cour, tout le temps avec eux, au réfectoire. Ce sont aussi des jeunes qui sont de culture et de religions différentes, donc tenir compte de ce qu'ils sont, hein. De leur situation sociale. Parce que s'ils sont en situation de pauvreté, c'est pas parce qu'ils ont une pauvreté. S'ils ont une pauvreté monétaire, une pauvreté de langue, etc., ça se répare. Mais quand le jeune cumule plusieurs pauvretés, c'est là qu'on peut parler de pauvre. Et donc, il faut faire autrement avec eux. Et surtout, il faut être très proche et qu'ils se sentent aimés. Ça, c'est l'essentiel.
Alors, dans un document que vous m'avez fait suivre, donc sur les Lassalliens en France, il y a quelques points qui résument les grands traits de votre pédagogie. Vivre donc la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait, être des guides vigilants, travailler à être des éducateurs qui recherchent un équilibre entre douceur et fermeté, et les éducateurs lassalliens doivent mettre leur travail et leurs élèves entre les mains de Dieu. L'autre point donc que vous vouliez souligner, c'est que ces écoles se veulent être des lieux d'évangélisation. Dans ce reportage que j'ai cité tout à l'heure de l'hebdomadaire Famille Chrétienne au Burkina Faso, il y a un de vos frères lassalliens qui dit la chose suivante à ses élèves: vous devez être des enfants exemplaires, sans Dieu nous ne pouvons rien faire, priez Dieu afin de bien étudier. On imagine qu'en matière d'évangélisation, ça doit quand même être adapté en fonction des pays et des cultures, non ?
Absolument, absolument. Les moyens pédagogiques sont différents suivant les pays, suivant les cultures. La manière aussi de structurer la classe ou la fermeté, par exemple. Hein. Dans les pays asiatiques, tout le monde se met en rang, il n'y a pas de problème. Chez nous, c'est
plus compliqué.
Toujours usuel. Pas compliqué, mais c'est souvent différent. Je voudrais quand même citer Jean-Baptiste de La Salle à votre, pour répondre à votre propos. Hein. C'est dans la méditation 202. L'attitude de l'enseignant. Votre zèle à l'égard des enfants que vous instruirez sera peu étendu et n'aura que peu de fruits et de succès s'il ne se terminait qu'à des paroles. Il faut pour le rendre efficace que votre exemple soutienne vos instructions et c'est une des principales marques de votre zèle. Voilà. C'est-à-dire, c'est d'abord la qualité de l'exemple et de la vie de l'enseignant qui est fondamentale.
Alors ce souci d'évangélisation, on peut imaginer quand même que ça vient à un moment, ça procède d'une annonce explicite. Dans tous les établissements lassalliens, il y a donc un grand souci qui est porté à l'annonce de la foi chrétienne, à une éducation chrétienne des enfants.
Alors même à Oscar Romero où j'étais, où il y avait une bonne part d'autres religions et de musulmans, toutes nos écoles, c'est des écoles, des frères des écoles chrétiennes. Hein? La Salle ne cache pas son jeu et les parents savent où ils mettent leurs enfants. Mais il faut, d'une part, une grande liberté par rapport à ces jeunes. Hein, ce n'est pas une école de la conversion. Mais d'autre part, il faut, comme vous le dites aussi, une annonce explicite. Alors, il y a deux moyens. La première, je viens de la citer, c'est l'exemple des personnes en charge de l'éducation. Et quand je parle de ça, je parle non seulement des enseignants, mais des éducateurs, des responsables, des femmes de ménage, du secrétariat, la manière d'accueillir les familles et les jeunes, par exemple. Hein. Voilà, c'est cela. Mais d'autre part, si on veut aussi être une école de l'Évangile, il y a une structure à mettre en place au niveau de la pastorale, en lien avec les églises locales. Et donc, dans nos établissements, il y a un responsable de pastorale, il y a des bénévoles, il y a des adjoints. On essaye de mettre en route le maximum de personnes parmi les enseignants ou les éducateurs pour participer à cette pastorale.
Et même question, est-ce que vous pouvez prendre un exemple sorti de votre expérience professionnelle qui dit ce souci d'évangélisation ? On imagine que vous avez été enseignant donc, pendant des années, vous avez essayé de faire en sorte que vos actions transpire quelque chose de votre consécration à Dieu, mais est-ce qu'il y a des moments où vous êtes en situation d'annonce dans le cadre des enseignements que vous donnez ?
Alors, vous parlez de l'annonce explicite.
Hein. Oui.
Oui, bon, quand j'étais en lycée professionnel, on sait que le milieu lycée professionnel, c'est des jeunes qui arrivent un peu de partout, souvent, du moins il y a encore quelques années, un petit peu parce que ce n'était pas la voie noble, pour reconnaître, hein. C'était perçu comme ça du moins, et c'était de permettre à ces jeunes d'utiliser toutes leurs capacités techniques, leur autre manière de s'exprimer. À Saint-Jean-de-Lorient, par exemple, nous avions récupéré l'ancienne ferme de l'école et nous en avions fait un centre pastoral. Alors, comme c'était des bâtiments qui étaient nus, eh bien, on a proposé aux jeunes d'aménager. Voilà. Et d'aménager ce centre. On y a créé une chapelle, on a créé un lieu de rencontre, et tout ça fait avec les jeunes. Voilà. Et on y a aussi célébré, bien sûr, chaque fois qu'il y avait un temps d'église hein, qu'il fallait célébrer pendant le temps scolaire.
L'autre point que vous voulez souligner, c'est le souci d'innovation pédagogique. On l'a dit au début de l'émission, que Jean-Baptiste de La Salle donc, avait eu des grandes intuitions, en tout cas des intuitions qu'il avait précisées à son époque. Donc le fait de faire la classe donc à plusieurs, le fait de le faire dans la langue qui est parlée couramment. Vous pouvez d'ailleurs commencer votre réponse en citant les grandes innovations, autres grandes innovations pédagogiques qu'il aurait eues. Et en tout cas, ce souci d'innovation pédagogique, vous continuez à le garder aujourd'hui.
Oui, alors Jean-Baptiste de La Salle, il ne s'agit pas de refaire ce que Jean-Baptiste de La Salle a fait, hein, parce que c'est une autre époque, mais de garder l'esprit. Jean-Baptiste de La Salle avait organisé ses classes, hein, très très bien. Il avait aussi favorisé la responsabilisation des jeunes, on en parlait tout à l'heure. Il y avait des fonctions dans la classe, il y avait le portier, il y avait celui qui était chargé de ramasser les livres en bout de banc, celui qui était chargé d'aller voir l'absent et de lui apporter les livres et lui dire ce qu'ils avaient fait en classe pendant l'absence. Voilà des exemples. S'occuper du fourneau pendant l'hiver, balayer la classe, nettoyer le tableau, voilà. Des fonctions, mettre les jeunes en responsabilité. Et aujourd'hui, eh bien, il faut s'adapter aussi à chaque jeune. Vous savez qu'on est dans un monde changeant, dans un monde d'évolution, parfois difficile pour les jeunes. Et comment faire ? En lycée professionnel, mon métier, c'était construction mécanique. Hein. Donc, j'enseignais le dessin industriel, entre guillemets. Hein, voilà, donc le bureau d'études. Et puis, j'ai gardé cela comme base professionnelle. Mais chaque fois qu'il y a eu besoin dans un lycée professionnel d'ouvrir une nouvelle orientation, parce qu'on sentait par exemple que la climatisation allait se développer, eh bien ça n'existe pas la formation, eh bien on va ouvrir un CAP climatisation. Bon, alors mais est-ce qu'il y a des profs qui vont pouvoir prendre ça en charge ? Prof d'électricité, ok. Et puis tiens, le prof de dessin industriel, frère Étienne, tu pourrais pas... prendre une part, bon, ben voilà, et ben on se forme au froid pour pouvoir prendre ça en charge.
Mais là, vous dites que les Lassalliens sont attentifs à essayer de développer des formations qui vont faire en sorte de donner réellement un métier aux enfants. C'est un peu différent d'un souci d'innovation pédagogique, non ?
Alors, non, c'est pas différent, parce que si vous voulez que le jeune se sente à l'aise, puisse avoir une formation qui corresponde à un besoin, une demande, où ils vont pouvoir trouver un métier, il faut bien que ça corresponde à cela. Il ne faut pas attendre. C'est un peu plus difficile en France parce qu'on est quand même, nous, sous contrat d'association avec l'État, donc obligés à des règles très précises. Mais ça ne doit pas empêcher l'innovation.
Quand vous étiez dans ce collège en région parisienne, là, Oscar Romero, oui. On imagine que vous vous êtes formé aussi pour arriver à accompagner des jeunes qui étaient souvent en grande difficulté scolaire et qui avaient des problématiques personnelles certainement complexes.
Alors non, là c'était le grand plongeon. Alors peut-être ma longue expérience en lycée professionnel avec des classes technologiques, avec des nouvelles sections de CAP, avec, m'a beaucoup aidé. Hein. Donc pour créer, pour devenir prof de techno, mais vous savez, un prof de techno avec une pédagogie, un petit atelier, on ne fait pas pareil avec des jeunes qui ne savent pas lire et écrire en troisième, ou qui sont violents, ou qui n'ont pas de patience, ou qui ne supportent pas d'être dans une pièce fermée. Donc voilà, il faut faire autrement, hein, toujours. Et cela est vrai aussi au niveau des établissements normaux, si vous voulez.
On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour parler de la spiritualité des Lassalliens. On va se replonger un petit peu dans les écrits de votre fondateur qui insistait sur la foi, le zèle et l'esprit de fraternité que doivent avoir les Lassalliens. Autant de choses qui peuvent aussi nourrir notre vie chrétienne et aussi inspirer les parents qui nous écouteraient.
Yemela Yahvé, Yemela Yahvé.
Yemela, Yahvé, Yemela, Yahvé. Ramener dans mes bagages des rythmes et des musiques, des sourires, des visages, des peuples d'Afrique. Découvrir un autre monde, d'autres amitiés, envie de changer les secondes pour des éternités.
Yemela, Yahvé, Yemela, Yahvé, Yemela, Yahvé, Yemela.
Souvenir indélébile. Des chants et des danses, souffle d'évangile et de délivrance. Abattu les murs de haine, de fatalité, briser les fers et les chaînes pour la vraie liberté.
Hey, 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 hey.
Africa, 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 je t'ai dans la peau. Africa. Africa, Africa, mon cœur brûle pour toi. Africa, 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 je t'ai dans la peau. Africa, 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 mon cœur brûle pour toi. À Dakar, de Durban à Tanger, même envie, même espoir, même défi à relever. Malgré le feu qui menace, le désert qui avance, l'esclavage a fait place à une nouvelle espérance. Ceux qui t'ont méprisé ont oublié qu'un jour les derniers seront les premiers. Africa, Africa, je t'ai dans la peau. Africa, Africa. Africa, mon cœur brûle pour toi. Africa, 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 je t'ai dans la peau. Africa, 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 mon cœur brûle pour toi. Africa, Africa. Africa, je t'ai dans la peau. Africa, 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 mon cœur brûle pour toi. Africa, mon cœur brûle pour toi. Africa, mon cœur.
Radio Présence sur le COS 106.5. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Qui était Jean-Baptiste de La Salle? C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin à l'occasion des 300 ans de la mort, donc de ce fondateur de l'école moderne, si l'on peut dire. Nous sommes avec Étienne Le Chapelain, qui est frère des écoles chrétiennes et lassallien, voilà, que l'on surnomme donc frère Étienne. Cette dernière partie d'émission, on s'est dit donc qu'on allait parler de la spiritualité lassallienne, en espérant qu'elle pourra aussi nourrir on va dire la manière d'éduquer de nos auditeurs, leur donner quelques idées. Alors on s'est noté trois points: l'esprit de foi, l'esprit de zèle et l'esprit de fraternité, qui sont trois points sur lesquels insiste votre père fondateur. D'abord, j'ai cru que Benoît XVI avait dit donc de Jean-Baptiste de La Salle que c'était un maître spirituel. C'est aujourd'hui comme ça encore que vous le vivez? En quoi était-il un maître spirituel?
C'est une spiritualité incarnée. La spiritualité ne va pas sans la mission qui lui est confiée au fur et à mesure par le Seigneur, la mission éducative. Les deux vont vraiment ensemble. On ne peut pas les dissocier. Mais je vous cite ce qu'il écrit dans Les devoirs d'un chrétien envers Dieu, hein, pour ses frères, pour ses maîtres qu'il forme. Cet esprit d'abandon que nous devons avoir à la volonté de Dieu en le priant ne doit pas nous empêcher de le faire avec toute la confiance possible. Parce que Dieu est plus disposé à nous accorder ce que nous lui demandons que nous n'avons d'affection à le prier.
Relisez la fin de la phrase.
Dieu est plus disposé à nous accorder ce que nous lui demandons que nous n'avons d'affection à le prier.
Ouais, qu'est-ce qu'il faut en comprendre?
Vous avez fait allusion, mais on l'a à peine effleuré, de toutes les difficultés que Jean-Baptiste de La Salle a pu avoir, et même à un moment de sa vie, la nuit du doute face aux oppositions. Jamais il n'y a eu le doute de la présence de Dieu, si vous voulez, hein, et de cette relation. C'était vraiment un homme de prière. Et pour lui, la prière n'est pas une action pénible, c'est une persévérance dans la foi, la prière.
C'était un homme d'oraison aussi, j'ai cru comprendre
surtout.
Hein.
Absolument, ce qui n'est pas obligatoirement le cas de tous les frères. Moi, je suis plutôt un technique qu'un priant, mais bon, voilà, chaque frère a un peu son charisme. Hein.
Même si on imagine que tous les frères prient, non, quand même, c'est rassurez-nous.
Oui, bien sûr, nous prions non seulement personnellement dans l'oraison, mais aussi en communauté, matin et soir. Nous avons des temps de prière et c'est important de faire remonter vers le Seigneur aussi ce que Jean-Baptiste de La Salle décrit dans sa méthode d'oraison qu'il a donnée à ses frères, hein, comme quand on se met en présence de Dieu, on prend le temps de l'accueillir, ensuite on fait remonter vers... On accueille du Seigneur ce qu'il nous a inspiré à travers le métier, à travers la vie de la journée, les relations avec les jeunes, avec les autres, et ensuite on fait remonter cela vers le Seigneur. Hein. C'est une méthode qu'il a donnée, une méthode spirituelle pour la prière qu'il a donnée.
Qu'est-ce que Jean-Baptiste de La Salle appelait donc par l'esprit de foi? J'ai noté: l'esprit de cet institut est un esprit de foi qui engage les frères à ne rien envisager que par les yeux de la foi, à ne rien faire que par la vue de Dieu, à attribuer tout à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire cet esprit de foi? Pourquoi est-ce qu'il insistait autant là-dessus?
Oui, ben c'est un idéal, hein, mais c'est vrai que l'engagement, j'entends des frères, hein, des religieux frères, c'est vraiment un don total. Hein, nous faisons une profession perpétuelle, hein, à un engagement, et dans la profession, on nous dit bien que c'est la mission éducative qui est la nôtre, c'est vraiment le don total. Voilà.
Est-ce que l'esprit de foi, c'est pas aussi d'apprendre à regarder ce que vous accompagnez avec les yeux de Dieu ?
Mais par exemple, dans mon temps, les 12 années que j'ai pu passer avec les jeunes de banlieue à Oscar Romero, c'était pas facile certains jours. Hein, c'était parfois peu supportable, au moins les premières années. Et c'est de la confiance. Et la confiance ne peut pas naître de soi-même. Hein, elle ne peut naître que si vraiment elle est enracinée vraiment dans d'être persuadée que derrière, c'est Dieu qui accompagne. C'est pas moi-même qui peut être un bon pédagogue, qui peut aider des jeunes à s'en sortir. C'est Dieu qui, à travers moi, va œuvrer. Et je pense que c'est ça, là, l'essentiel.
L'autre point, c'est donc l'esprit de zèle. Vous me disiez en préparant l'émission, le zèle est peut-être quelque chose qui est moins compris aujourd'hui. Enfin bref, c'est une forme d'ardeur à faire en sorte que Dieu soit connu et aimé par les jeunes qui l'accompagnaient. Qu'est-ce que vous pourriez préciser sur cet esprit de zèle ? Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste insiste tant dessus ?
Je vais le citer, si vous voulez bien, une nouvelle fois. « Préférez-vous, dans votre emploi d'éducateur, le soin d'inspirer de la piété aux enfants à tout autre soin, quel qu'il puisse être. » Voilà, hein, c'est clair. « C'est à ces marques qu'on reconnaîtra si vous ne cherchez que Dieu et si vous le cherchez véritablement. »
Voilà, mais maintenant, si vous deviez expliciter, c'est-à-dire que vous essayez d'abord, dans votre travail de frère et d'enseignant, et puis on imagine les 100 000 laïcs qui vous accompagnent de par le monde,
oui,
de faire en sorte qu'un jour les élèves puissent se dire « mais ils sont tellement bons que Dieu doit être bon », c'est ça
ou... Oui, alors « tellement bon », c'est peut-être pas tout à fait ça, parce qu'on peut être bon et... Non, oui, mais bon de la bonté de Dieu. Bon de la conviction que c'est Dieu qui agit et qui va agir chez le jeune, peut-être à travers nous. Vous avez certainement un jour, je ne sais pas, moi j'ai l'âge de le faire, relu votre parcours. Bon, moi je me dis, mais pourquoi je suis devenu frère ? Et je sais maintenant, à mon âge, je pense que j'ai assez de recul, pour me dire, ben voilà, c'est tel événement qui fait. Et moi, c'est, je pense, vers la 9e, classe de 9e à l'époque, que c'est un de ces surveillants de cours, hein, qui était attentif à chacun des jeunes, qui nous connaissait par nos prénoms. Et je me suis dit, tiens, ce type-là, il sait qui je suis, il est attentif à chacun. Et ça, j'ai envie, peut-être. Ça a été, je pense, avec du recul, le premier signe. Une anecdote, il tenait la boutique des bonbons à midi. Puis quand je pouvais avoir mis de côté quelques centimes de francs, eh bien, je me payais de temps en temps le luxe d'aller acheter des bonbons. Et le frère Yves, il me montrait, puisque c'était un des frères, me montrait la boîte pour la mission. Voilà. Alors... on mettait une petite pièce, ça n'empêchait pas d'avoir le nombre de bonbons correspondant après. Mais vous voyez, ce petit geste qui veut dire « pense aussi aux autres ». Il n'a pas fait d'évangélisation, il ne m'a pas parlé de Jésus-Christ.
J'ai trouvé une autre phrase de Jean-Baptiste. « Avez-vous une foi qui soit telle qu'elle soit capable de toucher les cœurs de vos élèves et de leur inspirer l'esprit chrétien ? C'est le plus grand miracle que vous puissiez faire et celui que Dieu demande de vous. » Donc ça, c'était pour l'esprit de zèle. Vous vouliez insister aussi donc sur l'esprit de fraternité, quelque chose donc très cher à votre fondateur, Jean-Baptiste de La Salle. Qu'est-ce qu'il entendait par ça ? L'esprit de fraternité ?
Eh bien, tout d'abord, s'il a voulu que les maîtres petit à petit s'appellent frères, c'est pas rien. Et tout à l'heure, vous avez dit, frère Étienne, c'est votre surnom. Non, c'est pas mon nom. C'est pas mon surnom. C'est le nom par lequel je suis appelé en tant que religieux, en tant que personne consacrée à Dieu.
C'est comme ça aussi que vous appelez les élèves, frère Étienne ou...
Ah, j'aimais bien quand j'étais enseignant, parce que maintenant je suis retraité. Mais quand je suis en contact avec les jeunes aussi, qu'ils m'appellent frère Étienne, et non pas par mon nom de famille. Hein, voilà. Et donc, être frère des jeunes, c'est effectivement être très proche d'eux, avoir de l'attention, avoir une certaine tendresse, même si le mot aujourd'hui n'est pas bien vu, hein, pour ces jeunes. Une tendresse de cœur.
Ça veut dire que vous vous attachez donc à être à la fois des éducateurs, on citait l'équilibre entre douceur et fermeté, mais qu'à un moment, ils puissent dire de tous les Lassalliens et puis des gens qui vous accompagnent dans ces établissements, ils sont aussi nos frères, on sent qu'il y a quelque chose de fraternel dans cette relation.
Oui, alors aujourd'hui, on parle de Lassalliens pour les frères et les laïcs. Nous sommes 350 frères en France, dont beaucoup sont maintenant âgés, retraités, mais nous avons 10 000 partenaires. Donc, ce sont ces Lassalliens, alors qu'ils sont, bien sûr, avec le respect de chacun de leurs engagements hein, et de leurs convictions religieuses. Mais ce qu'on leur demande, c'est de connaître cette inspiration de Jean-Baptiste de Lassalle. Et pour ça, il y a le Centre Lassallien français, qui depuis 25 ans forme des volontaires hein, qui veulent connaître la spiritualité du fondateur, pour pouvoir justement vivre aussi cette spiritualité. Alors, elle se vit par exemple avec les laïcs lassalliens dans les fraternités éducatives. C'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années, une dizaine d'années à peu près, il y a des rencontres, si vous voulez, de lassalliens, d'établissements. Hein, sur Toulouse, à l'établissement Saint-Jean où on est à Lassalle, où je suis, il y a les laïcs et les frères participent à 3 fraternités parce que c'est inter-établissement. Les fraternités, donc des temps de rencontre où les gens, 4-5 fois dans l'année, se rencontrent pour avoir un temps de partage sur leur vie, sur leur métier, à travers leur métier aussi, la façon dont ils vivent Dieu, à travers leur métier, un temps de prière et un temps de convivialité. Voilà. Ça se fait de façon très simple. Hein, pour que ce soit aussi, à l'inverse, non pas seulement l'éducateur qui apporte à l'établissement et aux jeunes, mais que l'établissement puisse, par la spiritualité des fondateurs, le rapporter à leur propre vie personnelle ou leur propre vie chrétienne. Vous voyez le
mouvement ? Eh bien, je pense que vous ferez rêver un certain nombre d'enseignants qui n'ont pas toujours, on va dire, ce rapport à leur communauté éducative. On va citer pour finir un ouvrage, Bernard, comment vous prononcez ?
Ours.
Bernard Ours, donc qui vient de publier une biographie de Jean-Baptiste de Lassalle, roborative, mais vous m'avez dit de très grande qualité, un mystique en action, c'est aux éditions Salvator, Bernard Ours, Jean-Baptiste de Lassalle, un mystique en action aux éditions Salvator. Un grand merci Étienne Le Chapelain ou frère Étienne d'être venu ce matin au micro de Vivante Église pour nous parler donc de Jean-Baptiste de Lassalle. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.